spontanément près des lieux visés par les terroristes pour en déposer quelques fleurs ou une bougie dans un élan de solidarité. Ces quelques personnes avec qui j'ai pu discuter sont évidemment extrêmement choquées, parfois en larmes, effondrées par ces attentats suicides. L'état d'urgence a été décrété par François Hollande. Cet état d'urgence peut être en vigueur pour une durée maximum de 12 jours. Le président de la République incite vivement les Parisiens à rester chez eux ce week-end. Les lycées et établissements universitaires de la région parisienne sont fermés et rouvriront uniquement à partir de lundi. Tous les musées, les grands magasins et les sites touristiques comme la Tour Eiffel sont inaccessibles pour le public. Ça a déjà été une grande surprise pour de nombreux badauds, de nombreux touristes qui sont présents dans la capitale ce week-end, qui ne sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé hier très tard dans la nuit. Le ministère de l'Intérieur vient d'annoncer le déploiement de 1500 militaires pour quadriller les rues de la capitale. Christian Panzou à Paris pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Et plusieurs pays d'Afrique, dont certains eux-mêmes sont frappés par l'extrémisme islamiste, ont exprimé aujourd'hui leur solidarité avec la France après ces attentats. Ils ont appelé également à renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Les réactions les plus fortes sont venues du Nigeria et du Kenya, victimes respectivement des Chababs somaliens et du groupe Boko Haram.
Dans un communiqué, le président nigérian Muhammadu Buhari s'est dit très choqué, profondément attristé. Il condamne ces attentats barbares et appelle à intensifier la coopération multilatérale et la collaboration internationale pour mettre rapidement fin au fléau du terrorisme. Parmi les réactions au Nigeria, nous allons à Kaduna. Écoutons Ibrahim Yakubu.
Vraiment, il faut qu'on fait tout possible pour mettre la fin de cette action de terrorisme, quoi.
D'autant que le Nigeria, vous vivez ça avec Boko Haram.
Je ne vois pas la différence de ce que Boko Haram font. C'est presque la même chose. Tous les terroristes, c'est le terroriste, quoi. Ils n'ont pas une autre définition, c'est la même chose, quoi.
Et en tant que musulman,
il faut demander à tous les musulmans du monde entier, attaquer, tuer quelqu'un innocent, vraiment, c'est interdit dans notre loi islamique même. C'est bien interdit. Et l'islam, c'est la paix. La religion, l'islam parle de la paix. Alors par exemple, maintenant, un musulman, je ne peux pas dire un musulman quand même. Ça, c'est le travail des terroristes, quoi. Si ce n'est pas vraiment ce que je peux dire, le musulman ne peut pas faire tout ce qu'ils font. Un vrai musulman. Parce que ici au Nigeria, prenez l'exemple de nous, ici. On est ensemble avec notre chrétien. Alors, le travail d'être un terroriste, c'est vraiment c'est leur travail, alors, quoi. Attaquer les gens, c'est pas, ça ne les regarde pas, quoi. Mais vraiment, pour moi, ce que je peux dire, c'est que vraiment, même si c'est un musulman ou bien un chrétien qui a fait ça, ça, c'est pas bien. C'est bien interdit, c'est bien condamné, mais partout dans le monde.
Ibrahim Yakubu, qui est un habitant de Kaduna, dans le nord du Nigeria.
Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a comparé les terroristes à des ennemis de l'humanité qui tentent de justifier le meurtre d'innocents par une foi pervertie.
En Afrique de l'Ouest, le président guinéen Alpha Condé condamne fermement cet ignoble attentat terroriste et souligne que notre commune adhésion à une lutte sans merci contre le terrorisme.
Profondément indigné, le président sénégalais Macky Sall a exprimé, lui, ses sentiments de profonde compassion et de solidarité en condamnant très fermement ces actes barbares.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a également condamné sur Twitter avec la dernière vigueur le terrorisme aveugle et odieux qui a frappé la France.
Et le nord du Mali, qui a connu l'occupation des djihadistes, Alassane Cissé, directeur de la radio de Goundam, est particulièrement touché.
On est franchement très 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 touché par cet acte criminel. Ça nous a rappelé 2012 ici à Goundam. Si la même chose se produit encore à Paris, ce qui veut dire que maintenant c'est très 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 grave. Il faut qu'au niveau international que les gens prennent des mesures draconiennes contre ces djihadistes-là qui sont là sans cœur, sans foi, sans loi. Parce que si un tel crime se produit à Paris, une grande ville mondiale, où quelles que soient les forces de sécurité qui sont là-bas, ils sont parvenus à faire ça, ce qui veut dire qu'à l'intérieur de l'Afrique, au nord de l'Afrique occidentale, où c'était leur bastion, ce qui veut dire que c'est très grave. comment est-ce que cela puisse arriver à Paris, une grande ville, des gens puissent rentrer et faire de tels dégâts, de tels crimes, et qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus. Je ne pourrais leur dire que vraiment on est meurtri dans notre âme, on est meurtri dans notre cœur et que nous sommes de cœur avec eux.
Alassane Cissé, directeur de la radio de Goundam.
En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane est très affectée, comme Aljouma Bokoum de la radio Albayane.
Je suis dans une cérémonie religieuse. Tout d'abord, vraiment, nous prions pour tous ceux qui sont décédés, tous ceux qui sont tués. Mais si on veut entendre que des interventions, que je suis sur une télévision, que les assaillants ont dit Allah Akbar, pour le spectacle là. Moi, ben, c'est pour indexer les musulmans. La communauté musulmane aussi n'a qu'à être, c'est très très attention. Parce que s'il faut pas Hollande a annoncé hier, en disant qu'ils vont fermer les frontières, l'état d'urgence, hors la France, il y a des musulmans là-bas, il y a les guides de la communauté musulmane. Donc il n'a qu'à essayer de faire une conférence de presse pour informer les Français. Les musulmans n'ont rien à voir avec ça. Bon, s'il y a un problème avec la Syrie ou autre chose, ça n'enlève que eux. Mais parce qu'ils vont prendre un bois, taper tous les musulmans avec le même bois. Même quelqu'un qui est non-musulman peut dire Allah Akbar. Dieu est grand, c'est un arabe. Ils peuvent gâter le nom des musulmans. Mais quand ils disent Allah Akbar, ils vont dire c'est un musulman. Quelqu'un peut saboter l'islam.
Voilà, Aljouma Bokoum de la radio Albayane, c'est à Abidjan en Côte d'Ivoire.
Et également sur Twitter, le président du Gabon, Ali Bongo, a exprimé toute sa solidarité au peuple français, touché une nouvelle fois par des attaques terroristes abjectes. Sans transition, je vais donc passer à quelques news internationales. Pour vous annoncer, Idriss, vous le savez sûrement, le chef du groupe État islamique aurait été en Libye. En Libye, le chef du groupe État islamique en Libye a été tué par une frappe américaine. C'est ce que le Pentagone a annoncé aujourd'hui.
Oui, l'Irakien Abu Nidal, sa mort va amoindrir les capacités de l'État islamique à atteindre ses objectifs en Libye, a ajouté Peter Cook. Cette frappe américaine a été autorisée et initiée avant l'attaque terroriste sur Paris, a-t-il également précisé. Abu Nabil, alias Wissam Najm Abd Zayed Al-Zubaydi, selon le porte-parole, a longtemps été un militant d'Al-Qaïda et était le plus haut responsable de l'État islamique en Libye.
Au moins 128 personnes, Idriss, avaient été tuées, 300 donc blessées un vendredi à Paris, on le rappelle, dans 6 attaques. Est-ce qu'on peut y voir une coïncidence avec cette frappe aujourd'hui ? La Libye, en tout cas, est plongée dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Deux autorités politiques se disputent le pouvoir depuis l'an dernier. L'une basée à Tripoli et l'autre, la seule reconnue internationalement, est basée à l'Est. En Libye, les attaques du groupe État islamique ont surtout touché la ville de Sirte, située dans le sud. Mais les djihadistes de l'État islamique ont pu être chassés de Derna dans l'Est.
Voilà, on va terminer au Niger et nous essayons d'entrer en contact direct avec notre correspondant sur place parce que l'opposant et candidat à la présidentielle de 2016, Hama Amadou, a atterri cet après-midi à Niamey, après un an d'exil. Nous avons finalement pu joindre Abdourazak Idrissa. Alors Abdourazak, qu'est-ce qui s'est passé avec Hama Amadou?
Oui, ce qui s'est passé, c'est que depuis ce matin, les militants à l'appel du bureau politique du parti de Hama Amadou se sont mobilisés à partir de 13h pour aller au niveau de l'aéroport international Diori Amani pour l'accueillir. Mais il y avait un grand dispositif sécuritaire qui a été placé. À 500 mètres de l'aéroport, ce n'était pas possible d'accéder à l'aéroport.
Mais Hama Amadou, il est arrêté ou bien il n'est pas arrêté? On n'a que 30 secondes là.
Oui, Hama Amadou, selon toute vraisemblance, il est arrêté parce qu'il semble que c'est le juge en charge du dossier qu'il a accueilli à sa descente d'avion. Il a présenté le mandat d'arrêt et il l'a remis entre les mains des forces de l'ordre qui, semble-t-il, l'ont conduit au niveau de la prison civile de Niamey.
Merci Abdourazak Idrissa. C'est la fin de cette édition avec Claire Morin-Djibour et Idriss Sall.
Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonjour, bonsoir, chères auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Bienvenue à votre Carrefour Sciences et Santé, une émission qui vous permet de découvrir le monde qui vous entoure. Quelle attitude faut-il adopter face aux dangers? Comment les prévenir? Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice du monde qui l'entoure. Ça me concerne et ça vous concerne. Bienvenue encore une fois. Eric Manelakiza en votre compagnie sur VOA Afrique. La mise en onde est assurée par Issia Kaba. Aujourd'hui, votre carrefour s'articule sur la fin d'Ebola en Sierra Leone. La viande rouge qui peut provoquer le cancer du pancréas. L'Éthiopie renforce la capacité des sages-femmes pour sécuriser les accouchements à domicile. Et enfin, Carrefour rebondit sur le réchauffement climatique. Et ne quittez pas vos antennes avant de découvrir une rocheuse comme la Terre, proche de notre planète Terre. Vous écoutez Carrefour aux sciences et santé. Les recherches pour vaincre Ebola ont beaucoup évolué, selon un article publié lundi dans la revue Nature Chemistry. Une équipe européenne a découvert un procédé pour produire facilement une molécule géante potentiellement capable de bloquer ce virus. Ebola a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. Ce virus reste présent en Guinée, mais avec moins de virulence. Par contre, il faut le dire, Ebola est maîtrisé en Sierra Leone. Ce pays est déclaré exempt, mais ce fut un long et rude combat, comme nous le dit Eba Kalondo, chargé de la communication à l'OMS à Freetown.
Ça fait un combat de presque 18 mois, mais il faut peut-être préciser que l'OMS a déclaré la fin de l'épidémie de l'Ebola qui a commencé en mai 2014 et qui a fait effectivement fin le 7 novembre 2015. Il faut aussi préciser que c'était juste pour déclarer l'exemption de la fin de cette épidémie-là. S'il y aura un autre cas, juste un nouvel cas d'Ebola, constitue une autre épidémie de l'Ebola.
Vous avez déclaré le pays exempt d'Ebola. Est-ce que dans le fond, c'est vrai? Quels sont les indicateurs?
C'est vrai, parce que c'était après 42 jours après le dernier patient qui était positif d'Ebola, qui a eu deux tests consécutifs négatifs d'Ebola, qui effectivement constitue le dernier cas ou le dernier cas de transmission pour cette épidémie de l'Ebola-là. C'est une déclaration très spécifique parce qu'une épidémie de l'Ebola, quand ça commence, ça veut dire qu'il y a dans le pays un cas de l'Ebola. Quand après le dernier cas, il n'y aura pas plus de cas après 40 jours après ce dernier cas de l'Ebola, on peut donc dire que le pays a rempli tous les critères pour l'OMS de déclarer la fin ou le pays exempt de l'épidémie de l'Ebola. Mais en déclarant un pays exempt d'une épidémie d'Ebola, qui était certes un très très grand coup humainement, mais économiquement pour ce pays, ça veut dire qu'on rentre aussi dans une nouvelle phase pour le Sierra Leone. On rentre dans une phase de 90 jours d'une surveillance aiguë pour faire en sorte que le pays ne voit pas une réémergence, si vous voulez, d'un autre cas d'Ebola, tout en sachant qu'il y a encore une transmission active dans le Guinée voisin. Toutes les stratégies qui sont mises en place et qui sont dans le Sierra Leone depuis 18 mois pour lutter contre l'Ebola, toutes ces stratégies-là continuent et toutes les infrastructures, tous les changements de comportement dans la population ici en Sierra Leone, tout cela ça continue pour faire en sorte que l'Ebola ne revienne pas. Parce que l'Ebola ne commence surtout pas avec une déclaration et ça ne déclare pas non plus avec déclaration le fin. Le fin de l'Ebola, c'est c'est vraiment à cause ou grâce à les efforts actifs et continus des populations pour faire en sorte que ce virus ne revienne pas dans un pays.
Oui, justement, est-ce que la population répond favorablement à vos appels, est-elle impliquée réellement dans la lutte d'Ebola?
Vous savez, un pays qui a subi, comme le Sierra Leone a subi, une épidémie comme celui-là qui vient déclarer exemple, c'est un pays qui a lutté très très fort. C'est surtout les efforts de la population sierra-leonaise qui nous a emmenés à ce stade-là. Et donc, je peux vous assurer que c'est surtout et d'abord la population sierra-leonaise qui mène cette lutte pour faire en sorte que le pays ne retombe pas une autre fois dans cette situation.
On a connu des cas de stigmatisation, par exemple, des gens qui étaient infectés et d'autres qui ne l'étaient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la cohabitation est redevenue normale après, justement, cette victoire sur Ebola?
C'est une victoire pour tous les Sierra-Leonais, vous savez. Et je crois que c'est aussi très important de savoir que l'Ebola, c'est un virus inconnu dans cette sous-région. Dans l'Afrique de l'Ouest, on ne connaissait pas ce que c'était l'Ebola. Et donc, quand l'Ebola a commencé, c'était la grande panique. Au début, les gens ne voulaient pas croire qu'il y avait cette virus-là. Mais petit à petit, effectivement, très vite aussi, la population se sont mobilisée contre cette virus. Il y a beaucoup, beaucoup de morts, presque de 4000 morts. De ce virus, donc une humaine très très élevée. Mais en même temps, nous n'avons jamais vu un taux si élevé des gens qui ont pu battre ce virus. Donc il y a des gens qui ont survécu ce virus et c'est une victoire, on peut dire presque mitigée, parce qu'après avoir vaincu ce virus, on apprendre de plus en plus qu'il y a encore des problèmes de santé qui restent avec les gens qui ont survécu l'Ebola. En parlant de stigmatisation, certes, il y a certaines parties de la population qui ont peur de l'autre, mais ça, c'est presque normal. Mais si vous voulez, sur l'ensemble, on peut dire que c'est un pays qui a lutté ensemble. Et les survivants d'Ebola sont aussi eux-mêmes dans le lutte de l'Ebola. Ils sont dans la réponse pendant cette lutte de l'Ebola. C'est surtout les survivants qui ont aidé leurs compatriotes quand il y avait les problèmes. Les survivants sont une partie clé dans la réponse. Pas que de répondre sur les questions de stigmatisation, mais aussi pour aider ceux qui ont tombé malades et aider leurs familles pour mieux les aider pour guérir. Donc la stigmatisation, c'est quelque chose qui a au fur et à mesure qui était presque géré par le survivant en aidant leurs compatriotes qui ont aussi été affectés par le virus.
Vous suivez toujours Carrefour Sciences et Santé, cancer du pancréas. Une étude de l'Organisation mondiale de la santé ne finit pas d'interpeller. Elle concerne la consommation de la viande rouge qui aurait une corrélation avec les cancers du pancréas et de la prostate, mais aussi avec le cancer colorectal, dans le cas de la consommation de viande transformée, c'est-à-dire modifiée par salaison, fumaison ou tout autre processus visant à rehausser son goût. Pour mettre cette étude en perspective, notre confrère Jacques Aristide s'est entretenu avec le docteur Kurt Streif, directeur des monographies au Centre international de recherche sur le cancer, le CICR de l'OMS.
C'est vraiment un travail d'un an avec un groupe d'experts du monde entier. Et les conclusions principales, c'est que la viande transformée, c'est maintenant classé comme cancérogène chez l'homme, ailleurs que groupe 1. Ça veut dire on sait maintenant qu'il y a vraiment un lien entre la consommation de la viande transformée et le cancer colorectal. Par contre, pour la viande rouge, il y avait aussi des indications fortes, mais pas totalement concluantes. Comme ça, il y avait une classification 2A, ça veut dire probablement cancérogène chez l'homme, et c'était observé aussi pour le cancer colorectal.
L'étude classe donc la viande parmi les produits du groupe 1, soit le groupe du tabac, même si le tabac demeure bien plus cancérigène qu'un steak. Faut-il donc éviter toute psychose pour ce qui est de la consommation de la viande rouge ?
Oui, nous avons vraiment essayé d'être très clairs que c'est vraiment classé comme groupe 1, comme vous avez dit, le tabagisme ou l'exposition à l'amiante. Mais par contre, le risque quantitatif n'est pas si important. Je peux vous expliquer pour une portion de, je veux dire, 50 grammes de viande transformée consommée chaque jour, il y a une augmentation du risque d'à peu près 17% pour le cancer colorectal. Mais de plus on mange, de plus le risque augmente.
Qu'y a-t-il de nouveau donc dans vos recommandations ? Et ces recommandations sont-elles par exemple applicables à un continent comme l'Afrique ?
Tout d'abord, on a eu des études épidémiologiques en lien avec le cancer qui incluent des données sur la consommation dans des continents différents. Et en effet, en Afrique, le pourcentage des personnes qui mangent de la viande chaque jour est beaucoup plus bas. Mais dans les consommateurs, la viande mangée chaque jour, c'est à peu près le même. Alors, il y a des groupes de la population, même en Afrique, qui mangent beaucoup de la viande rouge ou de la viande transformée.
Donc, en gros, docteur, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'interdisez pas aux gens de manger de la viande, mais la modération est de mise.
Ce n'est pas à nous de faire des recommandations après. Ce sera maintenant à l'OMS ou les autres gouvernements de prendre ça en compte pour faire des recommandations, ce qu'on mange ou non. Il y avait déjà des recommandations de réduire la consommation de la viande rouge ou la viande transformée, parce qu'on savait déjà qu'il y a des liens avec des autres effets sur la santé, les maladies cardiovasculaires ou le diabète. Maintenant, on sait en plus qu'il y a un lien avec le cancer qui est clair, au moins pour la viande transformée.
Le docteur Kurt Streif, directeur des monographies au CICR de l'OMS, joint à Lyon, en France. Et ce cancer qui se développe au niveau d'une glande située profondément dans l'abdomen, derrière l'estomac, touche surtout les hommes et les plus de 65 ans. Selon des estimations du Centre international de recherche du cancer, CICR, agence de l'Organisation mondiale de la santé, il a provoqué le décès de 330 000 personnes dans le monde en 2012, dont 78 000 personnes dans l'Union européenne. Selon le CICR, le cancer du pancréas représente la quatrième cause de décès par cancer en Europe, après les cancers du poumon, du côlon et du sein. Mais il pourrait, selon plusieurs experts, devenir la deuxième cause de mortalité par cancer en Europe à l'horizon 2020, derrière le cancer du poumon. John Lindon, le cancer du pancréas présente des évolutions silencieuses, mais quels sont les symptômes ?
Quant aux principaux symptômes évocateurs de la maladie, douleur abdominale, jaunisse, amaigrissement rapide, diabète récent, ils n'apparaissent en général que tardivement après une évolution silencieuse de la maladie qui peut durer 15 ans. 8 cas sur 10 sont ainsi diagnostiqués alors que le cancer est déjà arrivé à un stade avancé, la plupart du temps inopérable. Quant à la survie, à 5 ans des patients, elle atteint à peine 5%, l'un des taux les plus bas observés pour un cancer, nettement moindre que celui du cancer du poumon, de l'ordre de 15%.
Merci pour votre oreille attentive. Merci à mes collègues qui ont contribué à la réalisation de Carrefour d'aujourd'hui. Eric Manirakiza vous souhaite un agréable week-end chez vous. À la prochaine. Au revoir.